VOA Afrique, les infos. À Washington.
Avec vous, Henri Francisque, 13h à Bamako, 14h à Kinshasa. Bienvenue à notre journal. On commence par l'actualité ici aux États-Unis. Le président Donald Trump va se rendre aujourd'hui à Dayton, dans l'État d'Ohio, puis à El Paso, au Texas, deux villes où 31 personnes ont été tuées dans des fusillades au cours du week-end. Dans une allocution lundi, le chef de l'exécutif américain a condamné le racisme, le sectarisme et la suprématie blanche. Mais certains, dont le candidat démocrate à la présidence Beto O'Rourke, qui est originaire d'El Paso, se demandent si le président Trump sera capable d'éteindre l'incendie qu'il a lui-même contribué à attiser, selon eux, par ses propos sur l'immigration et les minorités. Pour sa part, la conseillère présidentielle Kellyanne Conway a dénoncé ce qu'elle appelle la politisation des fusillades par l'opposition et elle assure que Donald Trump s'emploie à rassembler le pays. Afrique maintenant, en Côte d'Ivoire, plus de 2000 personnalités, dont des responsables politiques et économiques américains et africains venus de 39 pays, ont participé à Abidjan au 18e Forum AGOA, une réunion visant à renforcer les relations commerciales entre les États-Unis et l'Afrique. Que peut-on retenir de ce dernier Forum AGOA? Idriss Fall a rejoint à Abidjan Gérard Amangoua, directeur général adjoint de l'APEX-SI, l'Association pour la promotion des exportations de Côte d'Ivoire.
C'est un tournant pour les relations futures entre les États-Unis et l'Afrique au sud du Sahara, puisque le paradigme commence à se décliner. Nous avons déjà la zone de libre-échange, donc l'approche continentale du marché africain. Et puis il y a également le fait que l'Amérique est en train de changer sa vision du partenariat avec la plupart des pays et des régions dans le monde. L'Amérique veut maintenant aller vers le bilatéral. Donc ils sont conscients du fait qu'effectivement l'Afrique commence à s'intégrer, on a vu, continental, mais ils préfèrent toujours maintenir leur cap, c'est-à-dire traiter directement avec les pays. Donc, nous sommes à un tournant important.
La Côte d'Ivoire, est-ce qu'elle profite bien de l'AGOA et comment?
La Côte d'Ivoire profite de l'AGOA, c'est trop dire. Hein. On aurait pu profiter énormément, ça c'est sûr, puisque, vous savez, quand on fait l'historique de l'évolution du statut d'éligibilité de notre pays depuis 2000, cette évolution est en temps de ce que nous sommes entrés en 2002, donc on a perdu 2 ans. Nous sommes sortis en 2005, on a perdu 6 ans. Donc, maintenant, nous sommes dans une période où le paradigme a complètement changé et où on se rend compte qu'il faut aller à l'industrialisation pour créer une base industrielle très large afin d'offrir des produits en quantité, mais également en qualité. Donc, on en a profité, si vous voulez, parce qu'on a eu quand même à peu près 200 millions de dollars de 2002 à 2004, davantage préférentiel. Mais après, bon, ça a baissé. Actuellement, nous sommes à 50 et 76 millions de dollars d'avantages préférentiels. On en a profité, mais on peut faire mieux.
En 2017, les échanges entre les États-Unis et l'Afrique, c'était de l'ordre de 100 milliards de dollars. Aujourd'hui, comment expliquer cette baisse?
Les Américains investissent dans certains secteurs clés. Hein. Il y a les mines, le pétrole et l'énergie. Ce sont des investissements productifs, mais à usage interne. Ce n'est pas des investissements pour aller vers l'exportation. Nous souhaitons, pour un partenariat gagnant-gagnant, que ces investissements au-dessus des secteurs porteurs pour nous, notamment l'agro-industrie et puis l'agroalimentaire. C'est pour cela qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, nous avons privilégié certains secteurs prioritaires dans le cadre de la stratégie nationale d'exportation. Et sur le marché américain, nous avons également des secteurs prioritaires, notamment la noix de cajou, le manioc qui s'est dérivé, le caoutchouc et puis le coton. Bien sûr, il faut ajouter le miel aussi.
Gérard Amangoua, directeur général adjoint de l'APEX-SI, l'Association pour la promotion des exportations de Côte d'Ivoire. Nous restons en Côte d'Ivoire, célébration de la fête de l'indépendance ce mercredi. Le président ivoirien Alassane Ouattara a maintenu le suspense sur son éventuelle candidature à l'élection présidentielle d'octobre 2020 lors d'une interview à la télévision d'État la veille. Je ferai savoir ma décision en 2020. Je vais prendre ma décision au moment opportun et sur la base de ce que mon parti me dira de faire, a déclaré M. Ouattara, qui achève son deuxième mandat après avoir été élu en 2010, puis réélu en 2015.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
La lutte contre les djihadistes dans le Sahel maintenant, dans le nord-est du Nigeria, deux femmes kamikazes se sont fait exploser au milieu d'une foule mardi soir, faisant 3 morts et 8 blessés dans un attentat attribué aux islamistes de Boko Haram. La double explosion s'est produite à Mafa, une agglomération située à une 50 kilomètres de Maïdougouri, chef-lieu de l'état de Borno. Selon Bello Danbata, patron de l'agence de gestion des urgences dans cet état, les deux kamikazes sont entrés à Mafa en se joignant à un groupe de femmes allées chercher du bois pour cuisiner. Une tactique portant la marque de Boko Haram qui a régulièrement recours à des femmes pour commettre des attaques suicides contre des cibles civiles comme les marchés, les gares routières et les mosquées. La dernière opération suicide des djihadistes remonte à juin où un triple attentat contre une foule regardant un match de football avait fait une 30 morts. Et toujours concernant la lutte contre les djihadistes, au Mali, 2 militaires maliens et 2 civils ont été tués lundi et mardi dans des attaques perpétrées dans le centre du pays. À cause de l'insécurité grandissante, le Comité international de la Croix-Rouge a annoncé hier la suspension de ses activités dans la région de Tombouctou, dans le nord-ouest. Le point avec Bagassi Koura.
Dans la région de Koro, lundi, 2 camions ont été attaqués à l'aide d'engins explosifs. 1 militaire a été tué ainsi que 2 civils qui accompagnaient l'armée. Hier mardi, à Zenzana Gare, sur la route entre Ségou et Bla, un gendarme a été tué dans une embuscade. Ces attaques n'ont pas été revendiquées. Elles ont eu lieu peu après la signature d'un accord de cessation des hostilités entre des groupes armés Peul et Dogon dans le centre du pays. Par ailleurs, à cause de l'insécurité, le CICR a annoncé hier la suspension de ses activités à Tombouctou. Il est quasi impossible de continuer à travailler lorsque nous sommes régulièrement l'objet de braquages, a poursuivi le CICR. Jean-Nicolas Marty, le chef de délégation au Mali, précise dans un tweet que cette décision fait suite au vol à main armée d'un véhicule de l'organisation à Tombouctou. En plein jour, en pleine ville, l'emblème de la Croix-Rouge attaqué, c'est selon lui simplement inacceptable.
Contestation au Soudan, l'accord de gouvernance sera signé de manière solennelle le 17 août. Après plus de 7 mois de manifestations, le jour même s'ouvrira le procès pour corruption de l'ancien président Omar al-Bashir, renversé en avril après 30 ans de pouvoir autoritaire. Les détails avec Eric Manirakiza.
L'accord proclame une série de droits et libertés pour les citoyens qui devront à l'avenir être protégés de toute arrestation arbitraire. La liberté de religion et la liberté d'expression doivent être garanties selon le texte. Chaque citoyen aura le droit d'accéder à l'information et de la diffuser. L'accès à Internet devient un droit à condition de ne pas menacer l'ordre public ou la sécurité. Le droit de manifester, de se syndiquer, de rejoindre ou de créer un parti politique doit également être garanti à l'avenir au Soudan. Le 18 août sera révélée la composition du Conseil souverain, une autorité de transition de 11 membres, dont 6 civils et 5 militaires. Ce conseil devra superviser la mise en place et le travail d'un gouvernement de transition dont le Premier ministre doit être connu le 20 août et la composition du gouvernement suivra une semaine plus tard. Cette instance aura la tâche de gérer une transition de 39 mois à l'issue de laquelle seront organisées des élections.
Au Mozambique, le président Philippe Nyusi et Osufo Momad, le chef de la RENAMO, l'ex-mouvement rebelle devenu parti d'opposition, ont signé mardi un traité de paix définitif. C'était à Maputo, en présence de plusieurs leaders africains, dont les présidents d'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, et du Rwanda, Paul Kagame. Les précisions avec Irene Herman Ungo.
C'est un jour vraiment historique. Cet accord va apporter définitivement la paix à un pays qui a connu suffisamment de souffrances, car il s'agit d'un accord conclu par des Mozambicains et pour des Mozambicains, a commenté l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Mozambique, Mirko Manzoni. Jeudi dernier, Philippe Nyusi et Osufo Nomad avaient déjà signé un accord sur la cessation des hostilités. Cet accord qui vient mettre un terme à un long processus de négociation intervient à quelques mois des élections générales prévues le 15 octobre. Sa signature ouvre la voie à des élections pacifiques, a souligné le président sud-africain Cyril Ramaphosa. Il représente un progrès fondamental dans la construction de la paix, s'est félicité le ministère portugais des Affaires étrangères. Il s'agit de la troisième une tentative pour conclure une paix définitive entre les deux rivaux. L'Arenamo n'avait jamais totalement désarmé et a maintenu une partie de ses combattants dans les montagnes du centre du pays. Elle accusait le gouvernement de ne pas respecter ses engagements.
Et pour terminer, violence en République démocratique du Congo, 2 personnes ont été tuées et 24 sont portées disparues dans l'est du pays après une attaque dans la localité de Kisima par des assaillants non identifiés. Merci de votre attention. Restez à l'écoute de VOA Afrique.